France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans la rentrée littéraire. Nous sommes le 14 août et le coup de feu vient d'être lancé en librairie avec les premiers livres publiés dans cette période qui met chaque année la littérature en ébullition. Parmi les noms d'auteurs et d'autrices qui sortent un roman aujourd'hui, en voici un qui ne vous est pas inconnu, Michel Bussy, le deuxième plus gros vendeur de romans en France que nous avons l'habitude de lire au printemps, débarque pour la première fois de sa carrière en août. L'auteur de Nymphéa Noire, Au soleil redouté, Trois vies par semaine ou Mon cœur a déménagé, adoré de son public pour ses intrigues à la fois noires et humanistes, publie aujourd'hui Les ombres du monde aux presses de la Cité. Géographe de formation, longtemps chercheur au CNRS, il a mis sa sensibilité et sa passion pour la géopolitique au service d'une intrigue qui plonge dans le génocide rwandais. En deuxième partie d'émission, je recevrai l'auteur québécois d'origine inoue, Michel Jean, qui a publié Kimik, un roman sur une facette méconnue de l'histoire du peuple autochtone et des violences qu'il a subies de la part du gouvernement canadien. Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
C'est la première fois que je vous interview au moment d'une rentrée littéraire, période cruciale pour les éditeurs et pour les auteurs et les autrices. En général, vous êtes à l'écart de ce grand raout littéraire d'août et de septembre. Vous sortez plutôt en mai. Comment vous vous sentez? Et est-ce que c'est une sensation différente, une pression particulière de publier à cette période un peu très regardée en tout cas?
Oui, c'est une sensation différente parce que généralement, les gens portent mes livres plutôt en juin, pendant les vacances. Et là, c'est plutôt à leur retour de vacances qu'ils vont découvrir mon livre en librairie. Donc c'est tout à fait particulier. Puis on a l'impression effectivement qu'il y a effectivement, je ne sais pas combien il y a cette année, 400, 500 livres peut-être qui sortent en même temps. Donc c'est tout à fait particulier d'être à ce moment-là. Et la preuve, je suis ici à France Culture pour parler avec vous, Élise, ce qui est aussi une grande première pour moi.
C'est un faisceau de regard un peu différent qui se pose sur vous. D'habitude, on va en librairie, mai, juin, on prend le Michel Bussy pour les vacances, on part avec, et puis chacun voilà commente le Michel Bussy de l'année. Mais là, comme vous le disiez, c'est plutôt la presse, les libraires. Il y a plus de pression peut-être pour un écrivain.
Ouais, alors il y a aussi une pression quand on sort au printemps parce que effectivement les lecteurs, ils ont aussi une offre assez considérable de entre guillemets de best-sellers et même de livres très très différents. Il peut y avoir de l'imaginaire, il peut y avoir du feel good, il peut y avoir beaucoup de choses et donc les lecteurs vont choisir, vont pas tout acheter. Donc et moi en plus pour dire vrai, j'ai un peu sorti à toutes les périodes de l'année. Je suis sorti déjà des livres en janvier, en février, il y a aussi des livres des pas de côté qui sont sortis en octobre, notamment un roman sur le Petit Prince. Donc en réalité, il n'y a que en août ou vraiment pour la pure rentrée littéraire que je n'avais jamais sorti de livre.
Premier mois d'août pour vous, et c'est une façon aussi d'apporter un type de roman, de littérature différente dans la rentrée. On n'est pas dans de la blanche pure avec vous, Michel Bussy. On est toujours aux confins du roman noir, de la géographie aussi, du voyage. Parfois vraiment une littérature de voyage et puis de la littérature familiale, des secrets, des twists, etc. C'est une façon aussi de nourrir autrement la rentrée de Blanche.
J'espère, en tout cas, le but, c'était de... Moi, je lis aussi beaucoup de livres à la rentrée littéraire. Il y a des tas d'auteurs que j'adore, que j'attends cette rentrée littéraire pour les lire. Et il y a effectivement une partie de la rentrée littéraire qui est sur on va dire l'autofiction, mais aussi une grande partie de la rentrée littéraire qui est très, très romanesque et que j'attends aussi pour cela. Il y a aussi des Goncourt ou d'autres prix salués qui sont souvent aussi des romans qui sont des intrigues très romanesques et pas seulement de l'autofiction et des romans intimes. Et donc, effectivement, cette fresque sur le génocide des Tutsis au Rwanda, à un moment donné, est apparue pour mon éditeur comme finalement pouvant rentrer dans les codes de cette rentrée littéraire, enfin en étant à la fois un roman, je l'espère, très grand public, en tout cas un roman où tout le monde peut y trouver cette fibre romanesque qui fait qu'on a envie de tourner les pages et d'apprendre de trembler pour ses héros, mais aussi une page d'histoire extrêmement forte, un roman qui est documenté par l'histoire, par les faits réels, et puis surtout cette implication de la France qui fait que c'est aussi un roman qui est un roman à thèse et qui, je pense, pour l'une des premières fois finalement, met en cause, en tout cas dans une fiction, l'action de la France à travers le génocide des Tutsis au Rwanda.
On va reparler du génocide des Tutsis au Rwanda et des ombres du monde. Petite curiosité, Michel Bussy, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quel confrère et consoeur, quel roman avez-vous glissé là dans votre valise pour cette rentrée littéraire?
Moi, j'ai très envie de lire celui de Gilles Marchand, notamment, parce que j'adore tous ses livres, et donc j'attends avec impatience le prochain.
Et on salue Gilles Marchand et son éditeur aux Forges Vulcain. Vous êtes géographe de formation, spécialiste de la géographie électorale, auteur d'une thèse intitulée « Effet spatial et comportement électoral de la France de l'Ouest sous la Ve République », donc c'est très pointu. Vous avez enseigné à l'Université de Rouen, au CNRS aussi jusqu'en 2016, mais en 1990, vous commencez à écrire des romans. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature, Michel Bussy?
Je crois qu'on pourrait presque poser la question, qu'est-ce qui m'a poussé vers l'université? Parce qu'en réalité, j'ai aimé écrire et j'ai écrit des histoires bien avant d'avoir l'idée d'entrer à l'université en géographie. Et c'est presque par hasard que je suis resté à l'université. Moi, je suis entré à l'université dans les années 80. C'était cette période où on parlait un peu de la démocratisation des études supérieures. C'est-à-dire qu'on était quelques millions chaque année à intégrer un peu par hasard, sans trop savoir ce qu'on allait faire de notre vie, les bancs des amphis. Et puis, j'y suis resté, et c'est trouvé que j'étais un élève, plutôt un bon élève, mais en tout cas, je me voyais plutôt finir comme professeur de lycée. Et puis, il s'est trouvé que je me suis pris de passion pour la recherche, et donc je n'ai jamais quitté l'université, j'ai fait une thèse. Et là aussi, les hasards d'un professeur m'ont fait m'intéresser à la géographie électorale, donc quelque chose d'assez pointu. À travers un modèle mathématique, c'était encore plus pointu. Et puis finalement, cette étude des élections m'a passionné, à la fois par le côté... presque journalistique de l'analyse des élections, mais plus encore, j'ai très vite dévié sur l'analyse de la démocratie et finalement de la citoyenneté. C'est ça qui m'a passionné, c'est comment à travers l'analyse d'une élection, on fait une radiographie d'une société, puisqu'une élection, c'est un sondage en grandeur nature, tous les ans, et qui se déroule pratiquement dans tous les pays du monde. Donc c'est la plus grande étude sociologique possible d'une société.
La géographie, vous racontez déjà en fait une histoire, Michel Bussy. C'était déjà des gens derrière des données mathématiques, comme vous le disiez. C'est déjà presque un roman qui s'écrit.
Oui, ce qui est passionnant dans l'étude des élections et des comportements électoraux, y compris pour les gens qui s'abstiennent, y compris dans des pays africains où il y a des élections, mais on dit que ces élections sont truquées, mais néanmoins les gens vont voter de façon parfois très très sacrée. On a des files d'attente assez considérables dans ces pays africains. C'est à quel point les élections sont significatives d'une... Par exemple, j'ai beaucoup étudié le rôle des femmes dans les élections, le rôle de la jeunesse dans les élections, parce que on a comme ça des projections sur le monde futur. Parfois, effectivement, ces idéaux sont balayés par une dictature, par un coup d'État, mais ça n'enlève rien au fond de la société, qui sont des aspirations à l'égalité, au changement. Et ça, c'est assez passionnant, parce que les élections, même truquées, donnent le pouls de ce multipartisme, de ces aspirations, de ces oppositions... des journalistes aussi, du fait s'il y a un pluralisme ou non. Donc tout ça est passionnant, c'est pas seulement qui vote pour qui, c'est tout ce qu'il y a autour du processus démocratique.
J'aurais aimé suivre vos cours à l'université, Michel Bussy. Pourquoi cet attrait pour le roman noir? Est-ce que c'est l'influence d'Arsène Lupin, vous qui êtes un Normand fiévreux, convaincu et fidèle à sa Normandie natale?
Je sais pas trop. Moi, j'ai souvent dit que j'avais écrit mon premier roman après avoir lu Sébastien Japrisot, notamment Un long dimanche de fiançailles. Et à défaut de choisir, j'ai voulu faire un roman où il y ait à la fois de l'histoire, de la géographie, des lieux, de l'amour et du suspense. Et peut-être parce que j'avais cette espèce de syndrome de l'imposteur, de n'être pas du tout du sérail littéraire, d'avoir pas dans ma famille des gens qui écrivaient, de me dire, il faut, pour que les gens aient envie de lire mon livre, qu'il y ait du suspense, qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des faux-semblants. Enfin, il y a quelque chose qui donne envie d'aller au bout. Et peut-être que j'avais pas assez confiance en moi pour écrire une intrigue. J'adorerais faire ça, mais je sais pas si je saurais le faire, d'écrire un livre où finalement il n'y a aucun suspense, où tout est connu à l'avance. Et je me suis pris au jeu. Et peut-être que je me suis découvert une sorte de talent, en tout cas d'envie de jouer avec ça, avec ce lecteur. Et je rencontre des collègues écrivains qui détestent ça, qui détestent avoir un plan à l'avance, qui détestent être contraints par une intrigue. Et moi, au contraire, je m'aperçois que j'adore ça, peut-être parce qu'il y a ce côté un petit peu scientifique qui fait que j'adore déployer mon imagination, mais avec des contraintes fortes et des engrenages assez précis. Voilà, donc il y a toujours ce mélange de la précision et de l'imagination qui, je pense, est un peu constitutif de la façon dont je construis mes romans.
Vous adorez, et ça vous rassure aussi, j'ai l'impression.
Oui, je pense que ça rassure. Alors, mais peut-être aussi, j'ai la conviction que le lecteur, ou un certain nombre de lecteurs aiment quand un roman est bien construit, aiment quand un roman, ils sentent qu'il y a une mécanique de précision. Alors, ils adorent qu'il y ait des digressions, ils adorent qu'il y ait un style, ils adorent qu'il y ait des choses qui les surprennent, bien entendu, mais de sentir quand même qu'il y a un rouage qui a tout simplement une façon de raconter des histoires qui est maîtrisée et que l'auteur n'est pas simplement parti faire des figures libres en se faisant plaisir et en perdant parfois le lecteur. Alors, il y a tout type de lecteurs, hein, bien entendu, mais je crois qu'en tout cas, mes lecteurs, ce qu'ils apprécient dans mes romans, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est une façon de raconter les histoires qui est maîtrisée. Et je crois que depuis presque la nuit des temps, quand on raconte des histoires, on essaye de maîtriser le tempo, le rythme, le suspense, l'attention, l'émotion, et que, en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne dans la dimension romanesque. Après, évidemment, il faut intégrer toute une série d'ingrédients, dont des ingrédients historiques, comme Sur les ombres du monde.
Et les fameux twists de Michel Bussy, vous me parliez à l'instant d'un sentiment d'imposture que vous avez pu ressentir. Vous avez encore quelque chose à prouver, Michel Bussy, avec le succès qui est le vôtre, et par ailleurs vos publications pour le CNRS, qui sont tellement pointues que je pense que la plupart d'entre nous ne pourraient pas les comprendre.
Oui, tout à prouver. Enfin, c'est vrai que c'est ce qui est merveilleux, je crois, dans l'écriture, c'est que quand on écrit, on est tout seul chez soi, et on a l'impression, quand on commence un nouveau roman, qu'on va jamais y arriver au bout. Quand on se relit, que c'est médiocre. Enfin, en tout cas, il y a vraiment en permanence cette idée que le prochain roman ne tiendra pas debout. Et puis le roman, c'est tellement un processus long, et comme je le disais, moi en plus j'adore partir sur un squelette relativement bien développé, qu'en réalité, avant d'avoir le produit final, quelque part, avant de lire ce roman, il y a des tas d'étapes de découragement, de sensations qu'on n'y arrivera pas, et on ne voit le bout du travail qu'un an, que deux ans après. Donc ça, c'est, oui, en tout cas, je pense que c'est le travail d'écriture, c'est deux ans de découragement et peut-être une journée de bonheur quand on se relit, on se dit, ah, ce roman commence à ressembler à celui que j'avais rêvé d'écrire. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de d'humilité. En tout cas, je sais pas si des écrivains peuvent écrire en se disant, à la fin de la journée, en disant, mais mon Dieu, que je suis génial. Enfin, non, ça, je pense que ça marche pas du tout comme ça. C'est de la sueur et c'est des ratures en permanence jusqu'à arriver à quelque chose qui commence à ressembler à un début de ce à quoi on aspire, quoi.
L'humilité, toujours. On parle de vous comme d'un écrivain populaire. C'est une occupation, une fonction que vous occupez avec noblesse. On en avait déjà parlé. Vous m'aviez dit que vous aimiez ce label, entre guillemets. Comment est-ce que vous le percevez? Comment est-ce que vous le vivez? Ce nom d'écrivain populaire, cette fonction d'écrivain populaire.
J'en suis fier. C'est peut-être même un de mes étendards. Moi, voilà, je viens de l'université. Donc, je viens d'un milieu où, voilà, j'ai été lu par quelques initiés, on va dire, et cette idée que la littérature doit s'adresser à tous, ça je pense que c'est fondamental. On a des chiffres aujourd'hui qui voient à quel point la lecture, de façon extrêmement rapide, est en train de perdre les jeunes. Je crois que je lisais encore hier que un jeune entre 16 et 19 ans, il passe 7 minutes à lire et 5 heures sur les écrans par jour. 7 minutes à lire.
C'est l'étude du CNL, voilà, publiée
cette année. Et ça descend encore très très rapidement. Donc je crois que défendre la littérature populaire, c'est se dire que la littérature ne doit surtout pas être coupée en deux, entre une petite élite qui continue de lire, le livre devenant une sorte de produit de distinction sociale, c'est-à-dire celui qui lit forcément appartient à un certain monde, et une grande partie des gens qui ne lisent plus ou qui ne lisent plus que des produits commerciaux. Et on a l'intelligence artificielle, donc nul doute qu'on aura un certain nombre de livres qui seront des produits plus ou moins construits par des intelligences artificielles. Et je crois qu'heureusement qu'il y a un chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des livres qui restent pour des élites. Je crois qu'il faudra peut-être des produits commerciaux très grand public. Mais j'espère qu'entre les deux, il y aura encore des humains qui réécriront des livres avec leurs tripes et qui plairont à un très grand nombre de gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis rentré en littérature, et j'espère vraiment. En plus, on a une parenthèse enchantée qui était un petit peu l'après-guerre, qui était celle du livre de poche, du roman populaire, des avant les écrans, en fait, cette période avant les écrans. Et ça serait dommage qu'effectivement cette littérature retombe sur ce qu'elle a été pendant très longtemps, c'est-à-dire quand même une littérature qui était lue par les gens qui savaient lire. Et avant le 19e, il n'y avait pas grand monde qui savait lire, en fait. C'était une toute petite minorité.
Et vous poursuivez sur ce chemin de la littérature avec Les Ombres du Monde. On va entendre une lecture effectuée par Lisa Dejode.
Le colonel a écrit une autre note, expliqua-t-il d'une voix de plus en plus grave. Il évoque l'éventualité d'une nouvelle attaque de l'armée de Kagame et évalue ses conséquences. Le rétablissement par ces derniers du régime Oni du premier royaume Tutsi, avoué ou déguisé, entraînerait selon toute vraisemblance l'élimination physique, à l'intérieur du pays, de 500 000 à 700 000 Tutsis par les Hutus. J'ai poussé un cri. L'élimination de 700 000 Tutsis, c'est-à-dire la quasi-totalité des Tutsis au Rwanda, l'attaché de défense de l'ambassade avait vraiment écrit cela ? Je voulais que tu sois au courant, fit doucement Jean-Charles. Maintenant, le président Mitterrand est informé. Il sait dans quel bourbier il s'est fourré. Nous sommes restés de longues minutes sans parler. Les images et les mots se bousculaient dans ma tête. 700 000 morts pour un pays de 7 millions d'habitants, ça dépassait l'entendement. Cet attaché de défense voulait certainement alerter le gouvernement français. Pourquoi pas ? Mais ce que sous-entendait sa note me dérangeait. Pire que cela, me terrifiait. L'analyse du colonel était simple. Si on laissait les Tutsis rebelles de Paul Kagame entrer au Rwanda, les Hutus rwandais massacreraient en représailles les Tutsis de l'intérieur. Cela revenait à faire du Front patriotique rwandais un ennemi absolu, une menace suprême à combattre, y compris en soutenant les extrémistes Hutus. C'était comme si les démocrates européens, en 1944, avaient refusé de soutenir les Anglais et les Américains au motif que le débarquement provoquerait des représailles allemandes sur les populations civiles. Pire, cela revenait à rejeter la responsabilité des crimes nazis sur les Alliés. Insensé. Et pourtant, c'était bien le raisonnement de cette note confidentielle.
Et nous sommes, Michel Bussy, au cœur du sujet de ce nouveau roman, Les Ombres du Monde, donc aux éditions des Presses de la Cité, qui plonge dans le génocide des Tutsis au Rwanda à travers l'histoire d'une famille. Cette famille, c'est celle de Maë. Elle a 15 ans. Elle vit en Normandie avec sa mère, Aline, et son grand-père, Jorik. Elle ne connaît rien ou pas grand-chose du Rwanda, le pays de sa grand-mère décédée pendant le génocide, mais elle est passionnée par les gorilles. Et à Noël, sa mère et son grand-père lui offrent des billets d'avion pour aller voir les gorilles au Rwanda, ainsi qu'une cassette de chant rwandais qui a une histoire un peu particulière. Et puis elle reçoit en catimini de la part de son grand-père un journal intime, c'est celui de sa grand-mère, Espérance, la femme de Jorik, qu'elle a tenu avant et pendant le génocide. Et vous nous plongez, Michel Bussy, dans cette double temporalité, le présent de Maë qui part vers le Rwanda et celui d'Espérance qui traverse le conflit. Depuis combien de temps pensez-vous à ce roman, Michel Bussy ?
En fait, je crois depuis le génocide, donc depuis le printemps 1994, où c'est l'année où j'ai été recruté à l'université de Rouen sur une chaire de géographie politique. Donc j'enseignais aux étudiants la géographie politique, et ce génocide m'a pris de plein fouet, je dirais, parce qu'à la fois la France était impliquée, c'est la France qui était militairement présente au Rwanda, et puis surtout le traitement médiatique de ce génocide différait très largement en France de la façon dont il était traité en Belgique notamment, mais aussi aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Et donc pendant des années, avec les étudiants, je travaillais sur la façon dont finalement un même drame, ce génocide, pouvait être traité très différemment, regardé très différemment. Et pendant longtemps, notamment en France, on a eu cette thèse du double génocide. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas ce qui est admis aujourd'hui par les historiens. C'est-à-dire que c'est un génocide des Tutsis au Rwanda. Mais longtemps, on disait, oui, mais les Tutsis ont eux aussi massacré des Hutus. Donc finalement, il n'y a que des méchants dans cette histoire. Et c'était une forme. Aujourd'hui, dire cela serait considéré comme un négationnisme absolu. Mais longtemps, c'est la thèse qui courait en France. Et donc, quelque part, eh bien, pour les étudiants en géographie politique, il fallait arriver à travailler sur les faits. On a un tribunal international, on a eu des procès, etc. Et non seulement sur le traitement médiatique, parfois journalistique, ou même, évidemment, sur les interventions politiques, puisque la France étant impliquée, on était en période de cohabitation, donc c'était François Mitterrand qui était président, mais Édouard Balladur qui était Premier ministre, eh bien, une grande partie des élus de l'époque, évidemment, étaient impliqués et donc, quelque part, devaient se défendre par rapport à ce génocide. Et donc, évidemment, les langues étaient... longtemps, ça a été une question relativement taboue, que ce soit à gauche ou à droite en France.
Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, vous voyez les choses se passer, vous posez sur cette situation votre regard de géographe, d'historien, vous observez la géopolitique, vous essayez d'expliquer ce qui se passe à vos étudiants, vous gardez ce sujet en tête, vous vous documentez, vous suivez aussi les procès, etc. Et puis en 2023, vous avez un... Il se passe quelque chose et vous vous mettez vraiment à la rédaction de ce texte.
Oui, c'est vrai que quand je suis devenu écrivain, donc on va dire à peu près 10 ans après, vers donc 2004, eh bien, j'ai vraiment cette idée de mêler la fiction Donc une histoire d'amour avec avec le drame du Rwanda et je vais le construire cette histoire pendant assez longtemps. C'est une sorte de presque de fantasme hein, finalement de sauter le pas puis j'ai attendu il y a effectivement 2023 pour téléphoner à Patrick de Saint-Exupéry, donc qui est un journaliste, un grand reporter de guerre et surtout celui qui a écrit les premiers livres comme lanceur d'alerte sur le rôle de la France au Rwanda, notamment l'opération Turquoise, hein, qui est celle qui va intervenir juste après le génocide. Et donc, Patrick de Saint-Exupéry me dit c'est une excellente idée de faire un livre de fiction sur le génocide des Tutsis au Rwanda, en le traitant sous l'angle du rôle de la France, et il me propose d'aller au Rwanda avec lui. Et donc, on a passé une dizaine de jours au Rwanda avec Patrick de Saint-Exupéry, à visiter les lieux de mémoire, à rencontrer des rescapés, à travailler avec des chercheurs à Kigali. Et donc, une fois ce voyage incroyable réalisé, je n'avais plus le choix, il fallait que je saute le pas et que j'ose finalement à aborder ce génocide, moi qui ne suis pas rescapé, moi qui suis simplement français, que j'ose le pas pour écrire ce roman, Les Ombres du Monde. Et j'avoue que ça a été un voyage d'une intensité incroyable, dont je ne suis pas encore remis.
Il existe cette question épineuse aussi de l'appropriation culturelle quand on écrit sur, vous dites vous-même, vous n'êtes pas rescapé du génocide rwandais. Quelles précautions est-ce que vous avez prises, quel stratagème est-ce que vous avez mis en place pour éviter cet écueil?
Déjà, je l'écris, je le précise, en tant que citoyen français, concerné dès 94, et donc sentant une responsabilité de comprendre les choses, d'écrire les choses, et d'ailleurs les gens qui ont lu Les Ombres du Monde souvent se sentent concernés eux aussi en tant que citoyen français en apprenant le rôle de la France. C'est une page de notre histoire, c'est peut-être l'une des pages les plus noires de notre histoire, c'est ce que dit notamment Vincent Duclerc, qui était l'auteur du rapport sur le Rwanda pour Emmanuel Macron, et qui a publié un livre qui parle du plus grand scandale de la Ve République. Donc c'est sans doute une page noire de notre histoire. Ça c'est vrai. Donc je l'écris avec cette légitimité de français, de citoyen français, de chercheur aussi en géographie politique et de romancier à succès pour écrire sur cette page de l'histoire. Après, sur le Rwanda, bien sûr, on a un certain nombre de rescapés. Je pense évidemment à, par exemple, Scholastique Mukasonga, Gaël Faye, qui n'est pas rescapé, mais qui a passé son enfance au Burundi et qui a évidemment écrit Petit pays ou Jacaranda, donc qui traite le génocide du Rwanda, mais qui sont tous des récits généralement auteurs d'enfance, des enfants qui subissent le drame, mais qui ne le comprennent pas. Et justement, c'est à la lecture de ces romans poignants, incroyables, que je me suis dit, il y a une pièce qui manque. Il faut qu'à un moment donné, la responsabilité de la France, il faut que ce drame soit vu aussi côté français. Et c'est là qu'est venue cette évidence qu'il fallait que cette histoire soit centrée entre un ou des militaires français et des démocrates rwandais.
On va écouter une archive sonore qui vous rappellera peut-être des souvenirs difficiles, puisqu'on l'a entendu au JT de France 2 en 1994, c'était le 7 avril.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les trois membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda.
Voilà, l'une des grandes richesses aussi de ce livre, c'est à la fois d'être dans l'immédiateté de ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, 6 avril, il y a cet attentat qui est commis, et puis c'est le début, c'est la date finalement que l'on donne au début de ce génocide des Tutsis, mais vous nous expliquez qu'en fait, ce génocide prend ses racines dans une histoire beaucoup plus ancienne, beaucoup plus complexe, et vous rendez tout ça très intelligible. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Michel Bussy?
Oui, moi ce qui m'a passionné dans ce récit, c'est effectivement la question de l'identité, puisque on le sait pas assez, mais les Hutus et les Tutsis parlaient la même langue, le Kinyarwanda, ils priaient le même Dieu, ils sont tous catholiques, ils habitaient les mêmes territoires, les mêmes villages, ils étaient voisins, ils chantaient dans les mêmes chorales, ils jouaient dans les mêmes équipes de foot. Donc, on n'a pas, c'est le seul génocide, en fait, où il n'y a pas un motif religieux, il n'y a pas un motif territorial, où il n'y a même pas un motif ethnique. Donc, c'est un génocide qui a été construit au départ par une différenciation ethnique créée par la colonisation, par des cartes d'identité. On n'a pas le temps de détailler, mais enfin, c'est effectivement, ce sont des identités fictives qui ont été appliquées à des individus. Et puis, une grande complexité, puisque, bien entendu, il y a la colonisation, mais il y a aussi, c'était le pays le plus danse d'Afrique, donc avec finalement une famine, une quasi-famine au moment du génocide. Donc on avait aussi beaucoup de corruption. Les génocidaires finalement voulaient se maintenir au pouvoir parce que il y avait aussi cette nécessité de garder le pouvoir, et c'est là qu'intervient la France, qui finalement a choisi parmi ses amis, parmi ses alliés, des génocidaires, on l'a lu tout à l'heure, avec des lanceurs d'alerte qui ont très clairement établi où étaient les responsabilités, jusqu'où pouvait aller cette haine construite, et où effectivement les lanceurs d'alerte n'ont pas été entendus. Et puis un dernier point, c'est aussi sur cet attentat, hein, c'est l'extrait de radio qu'on vient d'entendre. Ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est que cet attentat, qui est l'étincelle qui avait provoqué le génocide, encore aujourd'hui, on ignore presque totalement qui a commis cet attentat, et surtout, on ignore si la France, ou si des Français, si des mercenaires français, voire si les autorités françaises étaient au courant, ou sont aujourd'hui au courant, de qui a tiré ces deux missiles sur l'avion présidentiel. Donc c'est sans doute, là encore, un des grands mystères de l'histoire, et ce roman, évidemment, plonge dans ce mystère. Là, on est dans une série quasiment d'espionnage, c'est-à-dire que la boîte noire de l'avion n'a jamais été retrouvée, et s'est promenée comme ça sur plusieurs continents, sans qu'on ait tout à fait encore aujourd'hui la vérité.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Bussy, Les Ombres du Monde, votre nouveau roman, c'est un roman à thèse.
Oui. Oui, je le crois, parce qu'il y a une thèse alors, qui est partagée par Patrick de Saint-Exupéry, par beaucoup d'historiens aujourd'hui. Je pense à Hélène Dumas, chercheuse au CNRS, qui a relu tout ce livre. Oui, c'est une thèse pour dire aujourd'hui, il y a un devoir de mémoire qui a été fait partiellement, qui n'a pas été fait totalement par les présidents français. Il y a une rupture diplomatique pendant très longtemps avec le Rwanda qui est en train de s'apaiser. Et très clairement, sans spoiler ce livre, je pense que dans les années qui viennent, dans peut-être les décennies qui viennent, avec le temps qui s'écoulera, un peu comme la France a dû reconnaître son implication dans la rafle du Veldiv, etc., vraisemblablement, la France devra, à un moment donné, reconnaître non seulement sa responsabilité accablante, ça c'est déjà fait, mais reconnaître peut-être sa part active dans le déclenchement du génocide ou dans le fait d'avoir armé des génocidaires, d'avoir vendu des armes aux génocidaires en toute connaissance de cause. Et donc, on est au-delà de la simple erreur de stratégie. On est peut-être dans, effectivement, des secrets d'État. En tout cas, alors on pourrait reprocher à ce livre d'être un livre complotiste, mais quelque part, il y a eu complot, puisqu'il y a eu attentat, il y a eu complot, et donc ce livre, c'est aussi une façon de mettre tous les faits sur la table pour que les lecteurs puissent eux-mêmes aller chercher les clés de la vérité.
Et je leur souhaite, parce que c'est un roman qui nous embarque et puis qui, vous avez beaucoup parlé du réel et c'est captivant de vous écouter Michel Bussy, mais qui développe aussi une part fictionnelle, une part romanesque et beaucoup de retournements de situation et de rebondissements qui bien sûr nous tient en haleine et nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir aussi la réalité de ce génocide des Tutsis au Rwanda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Michel Bussy pour évoquer Les Ombres du Monde, votre nouveau roman qui sort aujourd'hui aux presses de la Cité. Bonne rentrée littéraire, Michel Bussy. Et je serai pour la deuxième partie de cette émission en compagnie de Michel Jean pour son roman Chimique. On se quitte au son d'une berceuse rwandaise de 1975. Pfai Pfai, c'est le dieu des morts.
France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans la rentrée littéraire. Nous sommes le 14 août et le coup de feu vient d'être lancé en librairie avec les premiers livres publiés dans cette période qui met chaque année la littérature en ébullition. Parmi les noms d'auteurs et d'autrices qui sortent un roman aujourd'hui, en voici un qui ne vous est pas inconnu, Michel Bussy, le deuxième plus gros vendeur de romans en France que nous avons l'habitude de lire au printemps, débarque pour la première fois de sa carrière en août. L'auteur de Nymphéa Noire, Au soleil redouté, Trois vies par semaine ou Mon cœur a déménagé, adoré de son public pour ses intrigues à la fois noires et humanistes, publie aujourd'hui Les ombres du monde aux presses de la Cité. Géographe de formation, longtemps chercheur au CNRS, il a mis sa sensibilité et sa passion pour la géopolitique au service d'une intrigue qui plonge dans le génocide rwandais. En deuxième partie d'émission, je recevrai l'auteur québécois d'origine inoue, Michel Jean, qui a publié Kimik, un roman sur une facette méconnue de l'histoire du peuple autochtone et des violences qu'il a subies de la part du gouvernement canadien. Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
C'est la première fois que je vous interviewe au moment d'une rentrée littéraire, période cruciale pour les éditeurs et pour les auteurs et les autrices. En général, vous êtes à l'écart de ce grand raout littéraire d'août et de septembre, vous sortez plutôt en mai. Comment vous vous sentez et est-ce que c'est une sensation différente, une pression particulière de publier à cette période un peu très regardée en tout cas?
Oui, c'est une sensation différente parce que généralement, les gens portent mes livres plutôt en juin, pendant les vacances. Et là, c'est plutôt à leur retour de vacances qu'ils vont découvrir mon livre en librairie. Donc, c'est tout à fait particulier. Puis, on a l'impression, effectivement, qu'il y a, effectivement, je ne sais pas combien il y a cette année, 400, 500 livres peut-être qui sortent en même temps. Donc, c'est tout à fait particulier d'être à ce moment-là. Et la preuve, je suis ici à France Culture pour parler avec vous, Élise, ce qui est aussi une grande première pour moi.
C'est un faisceau de regard un peu différent qui se pose sur vous. D'habitude, on va en librairie, mai, juin, on prend le Michel Bussy pour les vacances, on part avec, et puis chacun voilà commente le Michel Bussy de l'année. Mais là, comme vous le disiez, hein, c'est plutôt la presse, les libraires, il y a plus de pression peut-être pour un écrivain.
Ouais, alors il y a aussi une pression quand on sort au printemps parce que bah effectivement les lecteurs, ils ont aussi une offre assez considérable de entre guillemets de best-sellers et même de livres très très différents, peut y avoir de l'imaginaire, peut y avoir du feel good, peut y avoir beaucoup de choses et donc bah les lecteurs vont choisir, vont pas tout acheter. Donc et moi plus pour dire vrai, j'ai un peu sorti à toutes les périodes de l'année, je suis sorti déjà des livres en janvier, en février, il y a aussi des livres des pas de côté qui sont sortis en octobre, notamment un roman sur le Petit Prince. Donc en réalité, il n'y a que en août ou vraiment pour la pure rentrée littéraire que je n'avais jamais sorti de livre.
Premier mois d'août pour vous et c'est une façon aussi d'apporter un type de roman, de littérature différente dans la rentrée. On n'est pas dans de la blanche pure avec vous, Michel Bussy. On est toujours aux confins du roman noir, de la géographie aussi, du voyage. Parfois vraiment une littérature de voyage et puis de la littérature familiale, des secrets, des twists, etc. C'est une façon aussi de nourrir autrement la rentrée de Blanche.
J'espère, en tout cas, le but c'était de moi je lis aussi beaucoup de livres à la rentrée littéraire, il y a des tas d'auteurs que j'adore, que j'attends cette rentrée littéraire pour les lire, et il y a effectivement une partie de la rentrée littéraire qui est sur on va dire l'autofiction, mais aussi une grande partie de la rentrée littéraire qui est très très romanesque, et que j'attends aussi pour cela. Il y a aussi des Goncourt hein, ou d'autres prix salués qui sont souvent aussi des romans qui sont des intrigues très romanesques et pas seulement de l'autofiction et des romans intimes. Et donc, effectivement, cette fresque sur le génocide des Tutsis au Rwanda, à un moment donné, est apparue pour mon éditeur comme finalement pouvant rentrer dans les codes de cette rentrée littéraire, enfin en étant à la fois un roman, je l'espère, très grand public, en tout cas un roman où tout le monde peut y trouver cette fibre romanesque qui fait qu'on a envie de tourner les pages et d'apprendre de trembler pour ses héros, mais aussi une page d'histoire extrêmement forte, un roman qui est documenté par l'histoire, par les faits réels, et puis surtout cette implication de la France qui fait que c'est aussi un roman qui est un roman à thèse et qui, je pense, pour l'une des premières fois finalement, met en cause, en tout cas dans une fiction, l'action de la France à travers le génocide des Tutsis au Rwanda.
On va reparler du génocide des Tutsis au Rwanda et des ombres du monde Petite curiosité, Michel Bussy, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quel confrère et consoeur, quel roman avez-vous glissé là dans votre valise pour cette rentrée littéraire?
Moi, j'ai très envie de lire celui de Gilles Marchand, notamment, parce que j'adore tous ses livres, et donc j'attends avec impatience le prochain.
Et on salue Gilles Marchand et son éditeur aux Forges Vulcain. Vous êtes géographe de formation, spécialiste de la géographie électorale, auteur d'une thèse intitulée « Effet spatial et comportement électoral de la France de l'Ouest sous la Ve République », donc c'est très pointu. Vous avez enseigné à l'Université de Rouen, au CNRS aussi jusqu'en 2016, mais en 1990, vous commencez à écrire des romans. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature, Michel Bussy?
Ben, je crois qu'on pourrait presque poser la question, qu'est-ce qui m'a poussé vers l'université?
Parce qu'en réalité,
j'ai aimé écrire et j'ai écrit des histoires bien avant d'avoir l'idée d'entrer à l'université en géographie. Et c'est presque par hasard que je suis resté à l'université. Moi, je suis entré à l'université dans les années 80. C'était cette période où on parlait un peu de la démocratisation des études supérieures. C'est-à-dire, on était quelques millions chaque année à intégrer un peu par hasard, sans trop savoir ce qu'on allait faire de notre vie, les bancs des amphis. Et puis j'y suis resté, et c'est trouvé que j'étais un élève, hein, plutôt un bon élève, mais en tout cas, je me voyais plutôt finir comme professeur de lycée. Et puis il s'est trouvé que je me suis pris de passion pour la recherche, et donc je n'ai jamais quitté l'université, j'ai fait une thèse. Et là aussi, les hasards d'un professeur m'ont fait m'intéresser à la géographie électorale, donc quelque chose d'assez pointu. À travers un modèle mathématique, c'était encore plus pointu. Et puis finalement, cette étude des élections m'a passionné, à la fois par le côté... presque journalistique de l'analyse des élections, mais plus encore, j'ai très vite dévié sur l'analyse de la démocratie et finalement de la citoyenneté. C'est ça qui m'a passionné, c'est comment à travers l'analyse d'une élection, finalement, on fait une radiographie d'une société, puisqu'une élection, c'est un sondage en grandeur nature, tous les ans, et qui se déroule pratiquement dans tous les pays du monde. Donc, c'est la plus grande étude sociologique possible d'une société.
La géographie, vous racontez déjà en fait une histoire, Michel Bussy. C'était déjà des gens derrière des données mathématiques, comme vous le disiez. C'est déjà presque un roman qui s'écrit.
Oui, ce qui est passionnant dans l'étude des élections et des comportements électoraux, y compris pour les gens qui s'abstiennent, y compris dans des pays africains où il y a des élections, mais on dit que ces élections sont truquées, mais néanmoins les gens vont voter de façon parfois très très sacrée. On a des files d'attente assez considérables dans ces pays africains. C'est à quel point les élections sont significatives d'une... par exemple, on a beaucoup étudié le rôle des femmes dans les élections, le rôle de la jeunesse dans les élections, parce que on a comme ça des projections sur le monde futur. Parfois, effectivement, ces idéaux sont balayés par une dictature, par un coup d'État, mais ça n'enlève rien au fond de la société qui sont des aspirations à l'égalité, au changement. Et ça, c'est assez passionnant parce que les élections, même truquées, donnent le pouls de ce multipartisme, de ces aspirations, de ces oppositions, des journalistes aussi, du fait s'il y a un pluralisme ou non. Donc tout ça est passionnant, c'est pas seulement... qui vote pour qui, c'est tout ce qu'il y a autour du processus démocratique.
J'aurais aimé suivre vos cours à l'université, Michel Bussy. Pourquoi cet attrait pour le roman noir? Est-ce que c'est l'influence d'Arsène Lupin, vous qui êtes un Normand fiévreux, convaincu et fidèle à sa Normandie natale?
Je sais pas trop, moi j'ai souvent dit que j'avais écrit mon premier roman après avoir lu Sébastien Japrisot, notamment Un long dimanche de fiançailles, et à défaut de choisir, j'ai voulu faire un roman où il y ait à la fois de l'histoire, de la géographie, des lieux, de l'amour et du suspense. Et peut-être parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur, de n'être pas du tout du sérail littéraire, d'avoir pas dans ma famille des gens qui écrivaient, de me dire, il faut, pour que les gens aient envie de lire mon livre, qu'il y ait du suspense, qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des faux-semblants. Enfin, il y a quelque chose qui donne envie d'aller au bout. Et peut-être que j'avais pas assez confiance en moi pour écrire une intrigue. J'adorerais faire ça, mais je sais pas si je saurais le faire, d'écrire un livre où finalement il n'y a aucun suspense, où tout est connu à l'avance. Et je me suis pris au jeu. Et peut-être que je me suis découvert une sorte de talent, en tout cas d'envie de jouer avec ça, avec ce lecteur. Et je rencontre des collègues écrivains qui détestent ça, qui détestent avoir un plan à l'avance, qui détestent être contraints par une intrigue. Et moi, au contraire, je m'aperçois que j'adore ça, peut-être parce qu'il y a ce côté un petit peu scientifique qui fait que j'adore déployer mon imagination, mais avec des contraintes fortes et des engrenages assez précis. Voilà, donc il y a toujours ce mélange de la précision et de l'imagination qui, je pense, est un peu constitutif de la façon dont je construis mes romans.
Vous adorez, et ça vous rassure aussi, j'ai l'impression.
Oui, je pense que ça rassure. Alors, mais peut-être aussi, j'ai la conviction que le lecteur, ou un certain nombre de lecteurs, aiment quand un roman est bien construit, aiment quand un roman, ils sentent qu'il y a une mécanique de précision. Alors, ils adorent qu'il y ait des digressions, ils adorent qu'il y ait un style, ils adorent qu'il y ait des choses qui les surprennent, bien entendu, mais de sentir quand même qu'il y a un rouage qui a tout simplement une façon de raconter des histoires qui est maîtrisée et que l'auteur n'est pas simplement parti faire des figures libres en se faisant plaisir et en perdant parfois le lecteur. Alors, il y a tout type de lecteur, hein, bien entendu, mais je crois qu'en tout cas, mes lecteurs, ce qu'ils apprécient dans mes romans, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est une façon de raconter les histoires qui est maîtrisée. Et je crois que depuis presque la nuit des temps, quand on raconte des histoires, on essaye de maîtriser le tempo, le rythme, le suspense, l'attention, l'émotion, et que, en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne dans la dimension romanesque. Après, évidemment, il faut intégrer toute une série d'ingrédients, dont des ingrédients historiques, comme Sur les ombres du monde.
Et les fameux twists de Michel Bussy, vous me parliez à l'instant d'un sentiment d'imposture que vous avez pu ressentir. Vous avez encore quelque chose à prouver, Michel Bussy, avec le succès qui est le vôtre, et par ailleurs vos publications pour le CNRS, qui sont tellement pointues que je pense que la plupart d'entre nous ne pourraient pas les comprendre.
Oui, tout à prouver. Enfin, c'est vrai que c'est ce qui est merveilleux, je crois, dans l'écriture, c'est que quand on écrit, on est tout seul chez soi, et on a l'impression, quand on commence un nouveau roman, qu'on va jamais y arriver au bout. Quand on se relit, que c'est médiocre. Il y a vraiment en permanence cette idée que le prochain roman ne tiendra pas debout. Et puis le roman, c'est tellement un processus long, et comme je le disais, moi en plus j'adore partir sur un squelette relativement bien développé, qu'en réalité, avant d'avoir le produit final, quelque part, avant de lire ce roman, il y a des tas d'étapes de découragement, de sensations qu'on n'y arrivera pas, et on ne voit le bout du travail qu'un an, que deux ans après. Donc ça, c'est, oui, en tout cas, je pense que c'est le travail d'écriture, c'est deux ans de découragement et peut-être une journée de bonheur quand on se relit, on se dit, ah, ce roman commence à ressembler à celui que j'avais rêvé d'écrire. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de d'humilité. En tout cas, je sais pas si des écrivains peuvent écrire en se disant, à la fin de la journée, en se relisant, en disant, mais mon Dieu, que je suis génial. Enfin, non, ça, je pense que ça marche pas du tout comme ça. C'est de la sueur et c'est des ratures en permanence jusqu'à arriver à quelque chose qui commence à ressembler à un début de ce à quoi on aspire, quoi.
L'humilité, toujours. On parle de vous comme d'un écrivain populaire. C'est une occupation, une fonction que vous occupez avec noblesse. On en avait déjà parlé. Vous m'aviez dit que vous aimiez ce label, entre guillemets. Comment est-ce que vous le percevez? Comment est-ce que vous le vivez? Ce nom d'écrivain populaire, cette fonction d'écrivain populaire.
Bah, j'en suis fier. C'est peut-être même un de mes étendards. Moi, voilà, je viens de l'université. Donc, je viens d'un milieu où, voilà, j'ai été lu par quelques initiés, on va dire, et cette idée que la littérature doit s'adresser à tous, ça je pense que c'est fondamental. On a des chiffres aujourd'hui qui voient à quel point la lecture, de façon extrêmement rapide, est en train de perdre les jeunes. Je crois que je lisais encore hier que un jeune entre 16 et 19 ans, il passe 7 minutes à lire et 5 heures sur les écrans par jour, 7 minutes à lire.
Et l'étude du CNL publie cette année, et
ça descend encore très très rapidement. Donc je crois que défendre la littérature populaire, c'est se dire que la littérature ne doit surtout pas être coupée en deux entre une petite élite qui continue de lire, le livre devenant une sorte de produit de distinction sociale, c'est-à-dire celui qui lit forcément appartient à un certain monde, et une grande partie des gens qui ne lisent plus ou qui ne lisent plus que des produits commerciaux. Et on a l'intelligence artificielle, donc nul doute qu'on aura un certain nombre de livres qui seront des produits plus ou moins construits par des intelligences artificielles. Et je crois qu'heureusement qu'il y a un chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des livres qui restent pour des élites. Je crois qu'il faudra peut-être des produits commerciaux très grand public. Mais j'espère qu'entre les deux, il y aura encore des humains qui réécriront des livres avec leurs tripes et qui plairont à un très grand nombre de gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis rentré en littérature, et j'espère vraiment. En plus, on a une parenthèse enchantée qui était un petit peu l'après-guerre, qui était celle du livre de poche, du roman populaire, avant les écrans, en fait, cette période avant les écrans. Et ça serait dommage qu'effectivement cette littérature retombe sur ce qu'elle a été pendant très longtemps, c'est-à-dire quand même une littérature qui était lue par les gens qui savaient lire. Et avant le 19e, bah, il n'y avait pas grand monde qui savait lire, en fait. C'était une toute petite minorité.
Et vous poursuivez sur ce chemin de la littérature avec Les Ombres du Monde. On va entendre une lecture effectuée par Lisa de Jode.
Le colonel a écrit une autre note, expliqua-t-il d'une voix de plus en plus grave. Il évoque l'éventualité d'une nouvelle attaque de l'armée de Kagame et évalue ses conséquences. Le rétablissement par ces derniers du régime Oni du premier royaume Tutsi, avoué ou déguisé, entraînerait selon toute vraisemblance l'élimination physique, à l'intérieur du pays, de 500 000 à 700 000 Tutsis par les Hutus. J'ai poussé un cri. L'élimination de 700 000 Tutsis, c'est-à-dire la quasi-totalité des Tutsis au Rwanda, l'attaché de défense de l'ambassade avait vraiment écrit cela ? Je voulais que tu sois au courant, fit doucement Jean-Charles. Maintenant, le président Mitterrand est informé. Il sait dans quel bourbier il s'est fourré. Nous sommes restés de longues minutes sans parler. Les images et les mots se bousculaient dans ma tête. 700 000 morts pour un pays de 7 millions d'habitants, ça dépassait l'entendement. Cet attaché de défense voulait certainement alerter le gouvernement français. Pourquoi pas ? Mais ce que sous-entendait sa note me dérangeait. Pire que cela, me terrifiait. L'analyse du colonel était simple. Si on laissait les Tutsis rebelles de Paul Kagame entrer au Rwanda, les Hutus rwandais massacreraient en représailles les Tutsis de l'intérieur. Cela revenait à faire du Front patriotique rwandais un ennemi absolu, une menace suprême à combattre, y compris en soutenant les extrémistes Hutus. C'était comme si les démocrates européens, en 1944, avaient refusé de soutenir les Anglais et les Américains au motif que le débarquement provoquerait des représailles allemandes sur les populations civiles. Pire, cela revenait à rejeter la responsabilité des crimes nazis sur les Alliés. Insensé. Et pourtant, c'était bien le raisonnement de cette note confidentielle.
Et nous sommes, Michel Bussy, au cœur du sujet de ce nouveau roman, Les Ombres du Monde, donc aux éditions des Presses de la Cité, qui plonge dans le génocide des Tutsis au Rwanda à travers l'histoire d'une famille. Cette famille, c'est celle de Maë. Elle a 15 ans. Elle vit en Normandie avec sa mère Aline et son grand-père Jorik. Elle ne connaît rien ou pas grand-chose du Rwanda, le pays de sa grand-mère décédée pendant le génocide, mais elle est passionnée par les gorilles. Et à Noël, sa mère et son grand-père lui offrent des billets d'avion pour aller voir les gorilles au Rwanda, ainsi qu'une cassette de chant rwandais qui a une histoire un peu particulière. Et puis elle reçoit en catimini de la part de son grand-père un journal intime, c'est celui de sa grand-mère, Espérance, la femme de Jorik, qu'elle a tenue avant et pendant le génocide. Et vous nous plongez, Michel Bussy, dans cette double temporalité, le présent de Maë qui part vers le Rwanda et celui d'Espérance qui traverse le conflit. Depuis combien de temps pensez-vous à ce roman, Michel Bussy ?
En fait, je crois depuis le génocide, donc depuis le printemps 1994, où c'est l'année où j'ai été recruté à l'université de Rouen sur une chaire de géographie politique. Donc j'enseignais aux étudiants la géographie politique, et ce génocide m'a pris de plein fouet, je dirais, parce qu'à la fois la France était impliquée, c'est la France qui était militairement présente au Rwanda, et puis surtout le traitement médiatique de ce génocide différait très largement en France de la façon dont elle était traitée en Belgique notamment, mais aussi aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Et donc pendant des années, avec les étudiants, je travaillais sur la façon dont finalement un même drame, ce génocide, pouvait être traité très différemment, regardé très différemment. Et pendant longtemps, notamment en France, on a eu cette thèse du double génocide, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas ce qui est admis aujourd'hui par les historiens, c'est-à-dire c'est un génocide des Tutsis au Rwanda, mais longtemps on disait oui, mais les Tutsis ont eux aussi massacré des Hutus, donc finalement, il n'y a que des méchants dans cette histoire. Et c'était une forme, aujourd'hui, dire cela serait considéré comme un négationnisme absolu, mais longtemps, c'est la thèse qui courait en France, et donc quelque part, pour les étudiants en géographie politique, il fallait arriver à travailler sur les faits. On a un tribunal international, on a eu des procès, etc. Et non seulement sur le traitement médiatique, parfois journalistique, ou même évidemment sur les interventions politiques, puisque la France étant impliquée, on était en période de cohabitation, donc c'était François Mitterrand qui était président, mais Édouard Balladur qui était Premier ministre, et bien une grande partie des élus de l'époque, évidemment, étaient impliqués et donc quelque part devaient se défendre par rapport à ce génocide. Et donc évidemment, les langues étaient longtemps, ça a été une question relativement taboue, que ce soit à gauche ou à droite en France.
Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, vous voyez les choses se passer, vous posez sur cette situation votre regard de géographe, d'historien, vous observez la géopolitique, vous essayez d'expliquer ce qui se passe à vos étudiants, vous gardez ce sujet en tête, vous vous documentez, vous suivez aussi les procès, etc. Et puis en 2023, il se passe quelque chose et vous vous mettez vraiment à la rédaction de ce texte.
Oui, c'est vrai que quand je suis devenu écrivain, donc on va dire à peu près 10 ans après, vers donc 2004, j'ai vraiment cette idée de mêler la fiction Donc une histoire d'amour avec avec le drame du Rwanda et je vais le construire cette histoire pendant assez longtemps. C'est une sorte de presque de fantasme hein, finalement de sauter le pas. Puis j'ai attendu il y a effectivement 2023 pour téléphoner à Patrick de Saint-Exupéry, donc qui est un journaliste, un grand reporter de guerre et surtout celui qui a écrit les premiers livres. Comme lanceur d'alerte sur le rôle de la France au Rwanda, notamment l'opération Turquoise, hein, qui est celle qui va intervenir juste après le génocide. Et donc, Patrick de Saint-Exupéry me dit « c'est une excellente idée de faire un livre de fiction sur le génocide des Tutsis au Rwanda, en le traitant sous l'angle du rôle de la France. » Et il me propose d'aller au Rwanda avec lui. Et donc, on a passé une dizaine de jours au Rwanda avec Patrick de Saint-Exupéry à visiter les lieux de mémoire, à rencontrer des rescapés, à travailler avec des chercheurs à Kigali. Et donc, une fois ce voyage incroyable réalisé, je n'avais plus le choix. Il fallait que je saute le pas et que j'ose finalement à aborder ce génocide, moi qui ne suis pas rescapé, moi qui suis simplement français, que j'ose le pas pour écrire ce roman Les Ombres du Monde. Et j'avoue que ça a été un voyage d'une intensité incroyable dont je ne suis pas encore remis.
Il existe cette question épineuse aussi de l'appropriation culturelle quand on écrit sur, vous le dites vous-même, vous n'êtes pas rescapé du génocide rwandais. Quelles précautions est-ce que vous avez prises, quel stratagème est-ce que vous avez mis en place pour éviter cet écueil?
Alors beaucoup. Déjà, je l'écris, je le précise en tant que citoyen français concerné dès 94 et donc sentant une responsabilité de comprendre les choses, d'écrire les choses. Et d'ailleurs, les gens qui ont lu Les Ombres du Monde souvent se sentent concernés eux aussi en tant que citoyen français en apprenant le rôle de la France. C'est une page de notre histoire. C'est peut-être l'une des pages les plus noires de notre histoire. C'est ce que dit notamment Vincent Duclerc, qui était l'auteur du rapport sur le Rwanda pour Emmanuel Macron et qui a publié un livre qui parle du plus grand scandale de la Ve République. Donc c'est sans doute une page noire de notre histoire. Ça c'est vrai. Donc je l'écris avec cette légitimité de français, de citoyen français, de chercheur aussi en géographie politique et de romancier à succès pour écrire sur cette page de l'histoire. Après, sur le Rwanda, bien sûr, on a un certain nombre de rescapés. Je pense évidemment à, par exemple, Scolastique, Mukasonga, Gelfa, qui n'est pas rescapé, mais qui a passé son enfance au Burundi et qui a évidemment écrit Petit pays ou Jacaranda, donc qui traite le génocide du Rwanda, mais qui sont tous des récits généralement auteurs d'enfance, des enfants qui subissent le drame, mais qui ne le comprennent pas. Et justement, c'est à la lecture de ces romans poignants, incroyables, que je me suis dit, il y a une pièce qui manque. Il faut qu'à un moment donné, la responsabilité de la France, il faut que ce drame soit vu aussi côté français. Et c'est là qu'est venue cette évidence qu'il fallait que cette histoire soit centrée entre un ou des militaires français et des démocrates rwandais.
On va écouter une archive sonore qui vous rappellera peut-être des souvenirs difficiles, puisqu'on l'a entendu au JT de France 2 en 1994, c'était le 7 avril.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les trois membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda.
Voilà, l'une des grandes richesses aussi de ce livre, c'est à la fois d'être dans l'immédiateté de ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, 6 avril, il y a cet attentat qui est commis, et puis c'est la date finalement que l'on donne au début de ce génocide des Tutsis, mais vous nous expliquez qu'en fait, ce génocide prend ses racines dans une histoire beaucoup plus ancienne, beaucoup plus complexe, et vous rendez tout ça très intelligible. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Michel Bussy?
Oui, moi ce qui m'a passionné dans ce récit, c'est effectivement la question de l'identité, puisque on le sait pas assez, mais les Hutus et les Tutsis parlaient la même langue, le Kinyarwanda, ils priaient le même Dieu, ils sont tous catholiques, ils habitaient les mêmes territoires, les mêmes villages, ils étaient voisins, ils chantaient dans les mêmes chorales, ils jouaient dans les mêmes équipes de foot. Donc, on n'a pas, c'est le seul génocide, en fait, où il n'y a pas un motif religieux, il n'y a pas un motif territorial, où il n'y a même pas un motif ethnique. Donc, c'est un génocide qui a été construit au départ par une différenciation ethnique créée par la colonisation, par des cartes d'identité. On n'a pas le temps de détailler, mais enfin, c'est effectivement, ce sont des identités fictives qui ont été appliquées à des individus. Et puis, une grande complexité, puisque, bien entendu, il y a la colonisation, mais il y a aussi, c'était le pays le plus distance d'Afrique, donc avec finalement une famille, une quasi-famine au moment du génocide. Donc on avait aussi beaucoup de corruption. Les génocidaires finalement voulaient se maintenir au pouvoir parce que il y avait aussi cette nécessité de garder le pouvoir, et c'est là qu'intervient la France, qui finalement a choisi parmi ses amis, parmi ses alliés, des génocidaires, on l'a lu tout à l'heure, avec des lanceurs d'alerte qui ont très clairement établi où étaient les responsabilités, jusqu'où pouvait aller cette haine construite, et où effectivement les lanceurs d'alerte n'ont pas été entendus. Et puis une dernière point, c'est aussi sur cet attentat, hein, c'est l'extrait de radio qu'on vient d'entendre. Ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est que cet attentat, qui est l'étincelle qui va provoquer le génocide, encore aujourd'hui, on ignore presque totalement qui a commis cet attentat, et surtout, on ignore si la France, ou si des Français, si des mercenaires français, voire si les autorités françaises étaient au courant, ou sont aujourd'hui au courant, de qui a tiré ces deux missiles sur l'avion présidentiel. Donc c'est sans doute, là encore, un des grands mystères de l'histoire, et ce roman, évidemment, plonge dans ce mystère. Là, on est dans une série quasiment d'espionnage, c'est-à-dire que la boîte noire de l'avion n'a jamais été retrouvée, et s'est promenée comme ça sur plusieurs continents, sans qu'on ait tout à fait encore aujourd'hui la vérité.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Bussy, Les Ombres du Monde, votre nouveau roman, c'est un roman à thèse.
Oui. Oui, je le crois, parce qu'il y a une thèse alors, qui est partagée par Patrick de Saint-Exupéry, par beaucoup d'historiens aujourd'hui. Je pense à Hélène Dumas, chercheuse au CNRS, qui a relu tout ce livre. Oui, c'est une thèse pour dire aujourd'hui, il y a un devoir de mémoire qui a été fait partiellement, qui n'a pas été fait totalement par les présidents français. Il y a eu une rupture diplomatique pendant très longtemps avec le Rwanda, qui est en train de s'apaiser. Et très clairement, sans spoiler ce livre, je pense que dans les années qui viennent, dans peut-être les décennies qui viennent, avec le temps qui s'écoulera, un peu comme la France a dû reconnaître son implication dans la rafle du Veldiv, etc., vraisemblablement, la France devra, à un moment donné, reconnaître non seulement sa responsabilité accablante, ça c'est déjà fait, mais reconnaître peut-être sa part active dans le déclenchement du génocide, ou dans le fait d'avoir armé des génocidaires, d'avoir vendu des armes aux génocidaires en toute connaissance de cause. Et donc, on est au-delà de la simple erreur de stratégie. On est peut-être dans, effectivement, des secrets d'État. En tout cas, alors on pourrait reprocher à ce livre d'être un livre complotiste, mais quelque part, il y a eu complot, puisqu'il y a eu attentat, il y a eu complot, et donc ce livre, c'est aussi une façon de mettre tous les faits sur la table pour que les lecteurs puissent eux-mêmes aller chercher les clés de la vérité.
Et je leur souhaite, parce que c'est un roman qui nous embarque et puis qui, vous avez beaucoup parlé du réel et c'est captivant de vous écouter Michel Bussy, mais qui développe aussi une part fictionnelle, une part romanesque et beaucoup de retournements de situation et de rebondissements qui, bien sûr, nous tient en haleine et nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir aussi la réalité de ce génocide des Tutsis au Rwanda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Bussy, pour évoquer Les Ombres du Monde, votre nouveau roman qui sort aujourd'hui aux presses de la Cité. Bonne rentrée littéraire, Michel Bussy. Et je serai pour la deuxième partie de cette émission en compagnie de Michel Jean pour son roman Chimique. On se quitte au son d'une berceuse rwandaise de 1975. Pfai Pfai, c'est le dieu des morts. Natumwe